Bien ton jeu, la radio insolite au village du Festival Lumière. Les petites fourmis qu'on voit agir puisqu'ils s'occupent du bar du village. Attention, là c'est du sérieux, c'est pas une blague parce que j'ai devant moi un jeune homme qui a un t-shirt les fleurs du Malte. Mais il aime bien aussi aller dans des endroits où on peut naviguer dans le ciel. Bonjour, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Bonjour Alain, je m'appelle Jean-Baptiste Segui, je suis en effet le patron des Fleurs du Malte depuis 10 ans maintenant. On a ouvert en 2012 sur Lyon, on a même ouvert un deuxième bar sur Nantes. Donc les Fleurs du Malte, on est sur un bar spécialisé bière, on est présent sur le festival depuis 8 ans. Cette année, M. Frémaux nous a demandé d'étoffer notre gamme et d'avoir un esprit plus bistrot. Il voulait un peu de renouveau et j'aime bien ça quand il y a du renouveau. Et donc on est venu avec une deuxième affaire dans laquelle je travaille qui s'appelle l'Aéro, qui est à Bron sur le tarmac de l'aéroport. Là, on est sur un établissement totalement différent des Fleurs du Malte. On est sur une brasserie festive, puisque donc on fait de la restauration tous les midis pour les gens de la zone industrielle autour, mais pour tout venant aussi. Et surtout, le soir, on s'amuse, parce que c'est l'Aéro, c'est 4 concerts par semaine, c'est 2 DJ par semaine. On est, et on en est assez fiers, un des plus gros programmateurs de Lyon en nombre de dates. Bon, on est d'accord, on n'a pas la jauge de l'Anthony Garnier, on ne va pas se mentir. Mais on a quand même un établissement qui est capable d'accueillir jusqu'à 450 personnes l'été, avec un très beau jardin. On voit décoller les avions, les hélicoptères. C'est toujours un petit moment plaisant, parce qu'on a l'impression de partir en vacances, d'être à la campagne, parce que c'est malgré l'aéroport, il y a de la verdure de partout. Or, on est à 6 km du périph' et à 9 km du centre-ville de Lyon.
Mais alors, qu'est-ce que tu fais à Nantes? Parce que c'est carrément de l'autre côté de la France, hein.
Ah, ça, c'est une histoire assez amusante, puisque mon associé aux Fleurs du Malte, Mike, a beaucoup bossé à Nantes. Moi, j'ai de la famille à Nantes, puisque mon père était de Pornichet. Et quand on a voulu ouvrir un deuxième, parce que Mike et moi, on a un petit souci de stabilité. On est des gens de projet et non pas des gens de continuité. Donc, quand un projet tourne, fonctionne et que les gens qu'on a mis dedans, qui sont notre force vivre, tiennent l'établissement et nous font comprendre gentiment que bah, notre utilité n'est plus forcément attendue, et bien on a besoin de s'occuper, de faire autre chose, de se lancer sur d'autres projets. Et donc on a voulu ouvrir un deuxième Fleurs du Malte aux alentours de 2015, mais à Lyon c'était trop tôt, on aurait cannibalisé notre propre établissement. Donc on a regardé, on a fait une petite étude sur Marseille, sur Rennes, Montpellier, même Strasbourg. Et en fait Nantes c'est affiché comme une évidence, d'abord parce qu'on y avait du réseau, et ensuite parce que c'est une ville qui est en pleine expansion. C'est une des 3 villes de France où il fait le meilleur vivre selon les statistiques annuelles. 14% de progression de population, une grosse population étudiante. Et on ne va pas se mentir, les Bretons, alors j'aurais peut-être des cailloux dans la mare de la part des vrais Bretons, comme ils disent, ceux qui sont au nord de l'Orient, qui pensent que Nantes n'est pas en Bretagne. Moi, je pense que Nantes est en Bretagne. Les prisons de Nantes étaient bien une chanson bretonne, donc il n'y a pas... Et les Bretons, on ne va pas se mentir, sont des gens qui savent faire la fête, qui aiment les bons produits. Ayant une gamme de vin qui n'est pas la gamme de vin que tu peux trouver dans le Bordelais ou dans la Bourgogne ou dans le Rhône-Alpes, ils se sont très vite tournés vers la bière. Et donc on a affaire à des clients qui sont connaisseurs, qui apprécient le produit et qui sont ouverts à toutes les nouveautés qu'on leur apporte, et ça c'est très plaisant.
Alors ce que j'aime bien, c'est pas, t'en as pas une, t'en as pas deux, t'en as pas trois, t'en as combien de types de bières?
Ah bah le bar de Lyon, c'est 20 tirages. Sur les 20 tirages, on est à une quinzaine de tirages mobiles. On a 4-5 tirages fixes sur les produits d'entrée, voilà, pour que tout le monde retrouve ses marques. Et après, en fait, l'idée, c'est quand on a fini une série de bières, donc on prend entre 1 et 15 fûts selon le produit, souvent selon le prix d'achat, et bien on passe sur un autre produit. Donc ça permet aux gens de découvrir la bière. C'est un produit dont la possibilité de saveur est exponentielle, ça ne s'arrête jamais. Le vin est un vrai produit de dégustation, le whisky aussi, mais il n'empêche que tous les whiskies ont quand même une base liée à la distillation, tous les vins ont une base liée à la vinification. La bière, en fonction du type de céréales que tu vas mettre, du type de houblon, de la façon dont tu vas le traiter, du nombre de fermentations que tu vas faire, du type d'adjuvant que tu vas mettre, du vieillissement que tu vas faire, en fût, pas en fût, etc., tu peux obtenir d'un produit à 3 degrés hyper acide, à un produit à 9 degrés hyper amer, ou à un produit à 4-5 degrés hyper marqué sur le café type stout. C'est ça qui est intéressant dans ce produit-là, c'est le panel de choses possibles, et presque sans limite. C'est vraiment rigolo. Et après, donc, quand on a ouvert Nantes, comme on est un peu débile, eh ben, on a poussé le paroxysme encore plus loin, puisqu'à Nantes, on a monté 30 tirages, avec aujourd'hui, pareil, 4-5 tirages fixes, et le reste mobile.
Voilà. On est en dédicace de Mick Besnéard au village, c'est pour ça que vous avez entendu l'appel. Mais dis-moi, ce ne sont pas des buveurs, ce sont des connaisseurs qui viennent chez toi?
Alors, je vais être honnête avec toi, on a les deux. À Lyon, on a deux types de clientèle, deux grands types. Hein, et à Nantes, on en a même trois. À Lyon, tu vas avoir les gens qui viennent juste pour faire la fête. Donc, on a un certain nombre de produits d'appel dont je te parlais tout à l'heure qui permettent justement de faire une bonne soirée sans que ça coûte forcément des milliards. Et on a des gens qui viennent pour découvrir et déguster. Forcément, comme dans le vin, comme dans l'oussi, comme dans tout d'ailleurs, les produits de dégustation de belle façon sont forcément un peu plus chers. Et comme on dit en rigolant, la cuite a un certain prix. Donc on a vraiment une clientèle qui vient pour faire la fête et une clientèle qui vient pour déguster. Et à Nantes, on a les mêmes clientèles et on en a une troisième. Ça, c'est typique nantais et breton. Et on a les gens qui viennent pour déguster en début de soirée. Et puis, au bout de 2-3 bières de dégustation, quand ils commencent à voir le palais qui se remplit, ils passent à ce qu'ils appellent eux-mêmes le remplissage. Et là, on n'est plus sur de la qualité, on est vraiment sur un côté festif. Donc, on a une espèce de clientèle mixte à Nantes qui est très rigolote parce qu'ils sont hyper connaisseurs, mais au bout d'un moment, ils sont capables de boire de la bière nue entrée de gamme parce que là, c'est bon, le palais est cramé, on passe à autre chose, on est là pour faire la fête. C'est très rigolo d'avoir.
Qu'est-ce que tu penses de ces boissons sans alcool qui sont en train de sortir? En particulier, je crois qu'il y a le gin sans alcool, il y a le mojito sans alcool, il y a pas mal de choses comme ça.
Alors, je vais être honnête avec toi, que du bien. D'abord parce que d'un point de vue, moi, commerce, alors au fleur du mal, c'est pas quelque chose qu'on a énormément développé. On a des bières sans alcool, mais c'est pas forcément notre cœur de métier. Par contre, à l'aéro, on est en train de développer toute une gamme de cocktails sans alcool parce que, d'abord, je trouve ça plutôt dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a trois grandes raisons qui font que tu as envie de sortir et pas forcément de boire d'alcool. Des raisons religieuses, des raisons de santé. Et puis, et heureusement, ça commence à s'inscrire dans les mémoires, dans les mentalités, des raisons sécuritaires. Il y a un moment où prendre la voiture, nous on est à Bron, donc comme je te disais tout à l'heure, on est à 6 km du périph. Tu viens pas en transport, j'ai un bus qui vient à l'aéro. Donc tu prends ta voiture et je trouve ça très bien que les gens aient enfin compris que prendre sa voiture avec des canons, c'est pas très intelligent. Nonobstant ça, les gens n'ont pas forcément envie d'être avec des copains qui vont se taper des cocktails, des bières, et puis eux d'être avec leur verre de Pepsi et la paille et deux glaçons et que ce ne soit pas festif. Donc il y a un vrai goût pour du cocktail festif et en effet nous on s'est introduit là-dedans, on s'est inscrit là-dedans, tout introduit c'est un peu limite comme propos. Et on a maintenant un gin sans alcool, on a un rhum sans alcool, un whisky sans alcool, on a travaillé toute une gamme de cocktails avec ça, on a bien sûr des cocktails de fruits classiques et on est en train d'étoffer énormément la gamme. Ils se parlent même, mais je t'avoue ne pas les avoir goûtés, mais je m'y intéresse, qu'il existe maintenant sur le marché des vins sans alcool, puisque j'ai des amis qui m'en ont parlé. Donc là, on est en train de chiner justement un certain nombre de produits sur le sujet. L'idée étant vraiment non plus d'avoir dans la gamme des whisky, hop, un whisky sans alcool, dans la gamme des gins, hop, un gin sans alcool, mais une vraie gamme à part entière, qui est la gamme alcool-free. Parce que encore une fois, c'est pas, enfin, ça c'est ancré dans les mémoires françaises. Pour faire la fête, il faut de l'alcool. Et en fait, comme le disait la publicité pour les sirops sans alcool, la fête est plus folle. Et je trouve ça très bien que les gens se responsabilisent sur le sujet, pour quelque raison que ce soit. Et donc on essaie de les accompagner là-dedans. Et je trouve ça très bien.
Tu es cinéphile ?
Oui. Oui, oui, très.
Est-ce que tu as le temps alors que tu t'occupes du bar du village?
Pas cette année, non. Malheureusement, pas cette année, non. D'habitude, tous les ans, j'aime beaucoup aller voir des films dans le cadre du festival. Alors, on ne va pas se mentir, 9 films sur 10 qui passent au festival sont des films que forcément, à mon âge, on a déjà vus. Mais si.
Oh, le papy.
J'ai le Lot-et-Garonne, je laisserai à tes auditeurs faire le calcul pour savoir quel est mon âge. Mais ce que j'apprécie énormément dans l'approche qu'a le festival sur le cinéma, c'est toute la petite introduction qu'il y a à chaque fois sur chaque film, où forcément on va regarder le film avec un autre regard. Je me rappelle l'année dernière, est allé voir Le Pont de la Rivière Kwai, que j'ai dû voir 70 fois. J'adore ce film. Et avoir en explication la raison pour laquelle la petite chanson, le petit gimmick que tout le monde connaît là, du Pont de la Rivière Kwai, est sifflé et pas chanté, puisqu'à l'origine c'était une chanson, de comprendre pourquoi est-ce que l'acteur japonais qui fait le soldat du camp a été choisi comme acteur alors qu'il n'était pas prédestiné à l'être. L'anglais qui fait aussi le général, comment il est arrivé là, alors, à l'origine il ne devait pas venir du tout, il avait juste des gros problèmes de fric, donc il a accepté le rôle qui ne lui plaisait pas plus que ça, et au bout du compte il s'y est investi énormément. Donc d'avoir toutes ces petites anecdotes avant de regarder le film, c'est presque une nouvelle fois, mais toute neuve. Pas une fois de plus, mais une fois toute neuve, où on regarde le film avec un autre attrait. Et j'aime beaucoup la cohérence des choix que fait M. Frémaux avec son équipe sur le sujet, parce qu'on a toujours le prix Lumière, en plus cette année, moi je te cache pas que alors là je suis aux anges parce que je suis un énorme fan de Tim Burton, mais j'étais aussi un énorme fan de Tarantino, et je te parle même pas de Clint Eastwood, et les autres aussi, hein, ça. Mais je ne veux blesser personne. mais c'est vrai que ce que j'aime, c'est ce côté, on laisse carte blanche au prix Lumière pour bien sûr présenter son œuvre, mais aussi pour présenter les films qui lui plaisent, donc une vraie sélection du prix Lumière, et après des thèmes de travail. On a eu quand même toute une rétrospective Morricone il y a 2 ou 3 ans sur tout le travail justement musical autour de ces films, et de découvrir que Morricone, bah, c'est pas uniquement des Western Spaghetti, c'est plein d'autres films, c'est de mémoire 250 ou 280 films dont il a produit la musique dans tous les styles, et c'est intéressant justement de donner une cohérence. On va avoir des films quand ils sortent, on va avoir des films quand ils nous ont plu, on revoit des films quand ils nous ont vraiment plu, mais d'avoir un travail de cohérence sur un sujet, un thème ou un acteur ou un réalisateur, ça donne de la profondeur aux œuvres, et c'est vachement intéressant.
On peut finir avec tes petites fourmis ?
Bah, avec les petites fourmis, bah oui. Mes petites fourmis, ah mais non, mais ça c'est pas mes petites fourmis, ça c'est ma force vive, sans eux je suis personne. Tu sais, au Fleurs du Malte, on est 12 salariés à temps plein, plus énormément d'extras, plein d'étudiants qui viennent bosser avec nous. Au resto, à l'aéro, c'est 42 personnes en CDI, plus toute une équipe pareille d'extras. Et en fait, ces gens-là, c'est vraiment le... ce que je dis souvent, c'est que je suis pas un poulpe, hein. J'ai 2 bras. Aujourd'hui, un resto comme le mien qui fait 300 couverts par service, ou mon bar qui est ouvert 7 sur 7, si je suis tout seul, ou même juste avec mes associés, bah, ça pas marche, hein. Ça pas marche du tout. Hein. Et sans eux, je serais rien en fait, et mes entreprises ne seraient rien. Donc c'est vraiment pour moi des gens qui comptent énormément. Alors j'ai un management assez paternaliste et hyper protecteur que j'ai hérité de mon père. Mais c'est vrai qu'on est les premiers, tu vois. Sébastien là, qui bosse aujourd'hui, c'est quelqu'un que c'est un ami de longue date. Ça fait 3 ans que je voulais qu'il bosse avec nous en cuisine à l'aéro. On lui a acheté un scooter, on l'a aidé financièrement pour qu'il puisse faire son transfert de boîte, parce qu'on avait vraiment envie de bosser avec lui. Et puis parce qu'il y a un moment, on n'est pas juste des chefs d'entreprise, on est aussi des gestionnaires de personnel, des RH, mais avant d'être des RH, dans RH c'est ressources humaines, ouais, et il ne faut pas oublier le côté humain, et on bosse tous ensemble. Encore une fois, c'est ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois, on fait un métier qui est hyper passionnel. Hein. Je vais être honnête avec toi, tous les matins quand je me lève, je ne sais pas pourquoi je fais ce métier, pourquoi je l'aime, mais à chaque fois que j'arrive au boulot, je suis hyper content de retrouver mes clients, retrouver mes gars, de retrouver cette ambiance où nous, au fond, même s'il y a un côté à un moment physiologique, hein, faut manger. Alors la bière, je suis pas sûr que ce soit physiologiquement indispensable. Pour moi, oui, pour le commun des mortels, je suis moins sûr. Mais nous, au final, on n'est pas là que pour vendre un besoin, on est là pour vendre du plaisir, pour vendre un bon moment, pour vendre de la détente, pour libérer l'esprit des gens de leur boulot, de leurs ennuis, passer un moment avec leurs potes, avec leur famille, et c'est ça qui est plaisant dans ce métier. Même si, bah ouais, on bosse le soir, on bosse les week-ends, on bosse les jours fériés, on bosse quand les autres ne bossent pas, c'est pas toujours simple à gérer, mais c'est ça qui rend ce boulot hyper attachant. Donc moi, sans mes gars, bah, je suis personne en fait.
Dernière question. Le fait de gérer le bar du Village Lumière, c'est une récompense, une consécration ?
Alors, à la base, c'est un coup de chance, on ne va pas se mentir. Juliette Rajon est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, nos enfants étaient à la même école. C'est comme ça que le jour où M. Frémaux a décidé d'avoir un bar à bière dans son village, elle a naturellement pensé à moi. Nous, à la base, c'était pas une consécration, on a pris ça comme un challenge, parce que ça faisait 2 ans qu'on avait ouvert le bar, que de l'événementiel de ce type-là, on n'en avait jamais fait. On y a été avec beaucoup d'humilité, en se disant, on va voir ce qu'on arrive à faire. On a réussi, donc ça a été déjà un premier plaisir pour nous. Et puis bah, surtout, la consécration, ça a été de voir M. Frémaux nous renouveler tous les ans, sans même discuter le bout de gras. Et aujourd'hui, tu vois, cette année, quand il a voulu changer justement de profil, de fonctionnement, etc., et ben, pour autant, il n'a pas été voir quelqu'un d'autre. Il est venu nous voir en nous disant, bah, les gars, il y a 8 ans, vous avez pris le challenge. Allez, on en met un nouveau sur la table. On change tout, on passe en mode bistrot, on ramène du vin, on ramène des planches, on bosse en salle, on refait le comptoir, etc. Et nous, au contraire, ça nous a plus redonné un gros coup de dynamisme de se dire, bah, c'est génial, on remet un peu de nouveau. Et beaucoup de fierté de voir que M. Frémaux ne s'est pas posé la question d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc c'est très plaisant, ça veut dire qu'on est, on est dans l'esprit du festival, même si on est un petit peu, on ne va pas se mentir, les trublions du festival. Mais on est dans l'esprit de ce qu'attend M. Frémaux. Pour ceux qui le connaissent et qui travaillent avec lui, ils sauront que c'est quelqu'un d'hyper exigeant, d'hyper carré, qui a à peu près 12 000 idées à la seconde et qu'on met la moitié en place. Donc il faut le suivre. C'est quelqu'un qui est dur à suivre des fois, mais par contre c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui est plein de dynamisme, plein d'envie, plein de nouveautés et énormément plein de passion, et ça résonne chez nous.
Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver?
Que ce soit une fois par an au Festival Lumière, que ce soit sur d'autres festivals où on travaille, mais principalement aux Fleurs du Malte, donc 15 quai Romain Rolland, dans le Vieux Lyon, dans les caves voûtées avec les peintures, les fresques qu'on a peintes sur tous les murs, un côté un petit peu rock'n'roll aux Fleurs du Malte, parce qu'on est là pour s'amuser, parce qu'on est là pour se détendre, ou alors à l'aéro. Donc l'aéro, on est vraiment sur le tarmac, comme je te disais tout à l'heure, sur le tarmac de l'aéroport de Bron. Donc il faut savoir que l'aéroport de Bron est un aéroport d'affaires, troisième plus gros aéroport d'affaires de France, ancien aéroport de Lyon avant l'ouverture de Saint-Exupéry en 76. Et là-bas, on a une ambiance toujours assez rock'n'roll parce que la musique, c'est un ADN chez nous. Par contre, on va être un peu plus lissé. On a un niveau brasserie, on va dire brasserie un peu haut de gamme, mais avec une gamme de prix et de produits qui reste très abordable, puisque en moyenne, pour 30 euros, on mange et on boit très très bien chez nous. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir.
Je vais te remercier. C'est toujours un plaisir que de t'accueillir.
C'est un plaisir partagé, Alain. Je te remercie.